Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme du Studio Kalangou, diffusé sur 38 radios partenaires disséminées dans toutes les régions du Niger. Bienvenue dans le forum hebdomadaire de la presse qui analyse les faits marquants de la semaine. Au menu de ce forum de la presse, le vote lundi dernier de la loi sur l'exercice du culte au Niger par les députés nationaux. Nous reviendrons sur certains actes posés avant le vote favorable de ce texte. Sur le plan sécuritaire, à Chetimari, commune située dans la région de Difa, l'on dénombre de plus en plus de cas de conflits entre communautés et c'est depuis 2018. Nous parlerons aussi de l'enlèvement suivi de l'assassinat d'un chef de village dans le département de Bankilare, mais aussi il sera question de l'attaque du poste de police de Route Walam, situé à 10 km à l'entrée nord de Niamey. Enfin, nous évoquerons la CAN 2019 qui débute aujourd'hui même en Égypte. Pour parler de ces sujets, nous sommes en compagnie de nos confrères Hassan Boukar, journaliste à la Radio Alternative. Hassan, bonsoir.
Bonsoir.
Roufaï Dandoua, chroniqueur sportif. Roufaï, bonsoir.
Bonsoir, Kouzi.
Et Issa Morumadougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa, bonsoir.
Bonsoir, Alassane.
Et moi, Alassane Kouzi Mahamadou, pour la présentation de cette émission. Bienvenue à tous dans le forum hebdomadaire de la presse que nous ouvrons par les incidents graves à Maradi la semaine dernière à cause du projet de loi sur l'exercice du culte au Niger. Un projet d'ailleurs devenu une loi de la République lundi par le vote favorable des députés. Je vous propose d'écouter Oustaz Mustapha Amadou, secrétaire général de l'association islamique Fawzia, qui a affirmé que des consultations inclusives sur l'avant-projet de cette loi ont été menées au préalable au micro de Moussa Hassan.
Je confirme, effectivement, en tant que leader religieux, regroupé au sein des grands groupements des associations islamiques de ces pays, nous avons été saisis par une lettre du ministre chargé des cultes avec les avant-projets depuis un peu vers juillet 2018. Et il y a autres confréries qui ne sont pas dans les associations, tous ont été saisis pour qu'ils donnent leurs avis par rapport à ces avant-projets. Je dis bien avant-projets. Des concertations ont été menées et on a synthétisé, on a enlevé ce qu'il faut enlever, on a séparé ce qu'il faut séparer, on a amélioré ce qu'il faut améliorer et on a répondu donc au ministre des titres pour lui dire que voilà comment nous voyons les choses. Par une lettre donc envoyée par le Conseil islamique au nom de toutes les associations, je dis bien toutes les associations, même celles qui s'agissent dans ces pays-là, ils ont été impliqués par leur fédération. Le ministre de l'Intérieur a étudié les choses, il a reformulé les choses avec ses techniciens, il nous a renvoyé. Nous nous sommes retrouvés encore pour voir. Et effectivement, elles ont été prises en compte. Elles ont fait sortir ces projets actuels. Nous l'avons lu. Nous avons été à la commission de l'Assemblée nationale qui nous a posé un certain nombre de questions.
Qu'en est-il de l'autorisation de la construction des mosquées et du choix des imams?
Quand tu prends la question de construction des mosquées, même au temps du prophète, tu ne construis pas la mosquée comme tu veux parce que tu as de l'argent. Non, il y a des préalables à remplir. Nous sommes des associations islamiques, on nous impose d'abord une autorisation avant d'être créé. Mais comment toi, un individu, tu vas dire que je veux construire la mosquée comme je veux, quand je veux, de la façon dont je veux? La mosquée, c'est très important, c'est la maison de Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a un principe, c'est pour le prophète. Tous les marabouts s'en servent, savent ça. Et cette loi-là, qu'elle est venue pour un peu protéger l'islam, protéger un certain nombre de confusions que les gens taisent dans l'esprit des fidèles. Cette loi-là, elle n'a jamais été imposée à qui que ce soit. C'est juste arrangé chez toi pour qu'on ne soit pas comme les pays que nous voyons aujourd'hui déchiquetés parce qu'il y a une confusion dans l'interprétation des choses.
Vous venez d'écouter Oustaz Mustapha Amadou, secrétaire général de l'association islamique Fawzia. Alors, Hassan Boukar, quelle est votre analyse après l'écoute de cet extrait, mais aussi sur ce qui s'est passé en amont?
Moi, pour moi, c'est le remake des situations qu'on a déjà vécues. Il n'y a rien de nouveau. Sur toutes les questions en rapport avec la religion, on a déjà connu des moments de ce type. Rappelez-vous, par exemple, du code de la famille. Ça fait l'objet de débats de ce type. Mais j'écoute bien les leaders religieux. Ils jouent aussi leur crédibilité, ces leaders-là. Ils jouent leur crédibilité. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent qu'ils ont été consultés. Le texte, c'est bon, c'est bien. le jour où le gouvernement l'applique, il ne faut pas qu'il revienne nous dire qu'il y a des atteintes. Un texte est fait, s'il est voté, il doit être appliqué. Sur les questions de où construire une mosquée, faire des prêches, etc. Bien. Il faut bien que maintenant, chacun assume. Alors, l'autre chose que ça m'inspire, c'est qu'il y a peut-être un problème de représentativité
des organisations
dit, islamiques. Mmh. Le gouvernement a reconnu que le Conseil islamique a peut-être besoin d'être retravaillé, parce que peut-être que beaucoup de temps est passé et ils ne sont pas nécessairement très représentatifs. Peut-être qu'il y a des groupes, des associations ou peut-être des pratiquants qui ne se retrouvent pas à travers ce conseil. Il faut donc le retravailler. Je pense que c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a dit. Mais au-delà, je pense que si les questions essentielles, il faut aussi bien limiter le rôle des associations. C'est-à-dire qu'on peut être association islamique, on n'est pas des élus. On a par exemple la possibilité de faire ce débat directement avec les musulmans. C'est une question qui va être appliquée pas seulement à des associations en tant que structure, ça va être appliqué à des musulmans. Je pense que le gouvernement a la possibilité, regardez quand on fait une discussion sur la Constitution, on prend tout un temps pour discuter directement avec les citoyens parce que c'est de leur vie qu'il s'agit. Alors si on considère qu'à plus de 99% les citoyens de ces pays sont des musulmans, rien n'empêche au gouvernement de faire une discussion directe avec les musulmans. C'est-à-dire à travers des débats, à la radio, dans d'autres espaces de discussion, que les musulmans puissent d'abord connaître le contenu du texte. C'est-à-dire une démarche véritablement participative. Un, qui permet de dire aux gens quel est le contenu du texte, qu'est-ce que ça implique. Puis, en ce moment, ça peut aller au vote. Alors, aujourd'hui, la démarche, c'est de dire les seuls, ou en tout cas les premiers à venir contester un texte, ce sont les associations religieuses. Et du coup, finalement, on élimine carrément les citoyens auxquels le texte est appliqué. On part de citer avec des associations, sachant bien qu'il y a une multitude d'associations. Les unes sont d'accord, les autres ne sont pas. Et on rejoue toujours cette situation. Donc, à mon avis, aujourd'hui, sur des situations de ce type, il faut aussi discuter directement avec les musulmans. Il y a tellement de confréries, tellement de courants dans les milieux musulmans qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à réunir les Nigériens derrière un courant. Donc, dans ce cas, la seule solution, à mon avis, c'est de discuter directement avec les musulmans, de façon à ce que si les citoyens sont d'accord, aucune association, puisqu'elle dit représenter les musulmans de ces pays, aucune association n'est à mesure de le remettre en cause si les musulmans eux-mêmes sont déjà d'accord avec ça.
Rufai Dandoua, est-ce que votre point de vue, consulter directement les musulmans, les populations?
Oui, pour et contre ce que Abba a dit, pour discuter directement à travers des débats radio-télévisés, à travers des débats sur des places publiques avec les musulmans, c'est important. Mais dire peut-être, par exemple, de limiter, par exemple, les points de vue des religieux. Je pense que...
Des organisations
islamiques. Quelque part, je pense qu'ils jouent le même rôle que les acteurs de la société civile qui n'ont pas été élus par le peuple et qui, quelque part, s'arrogent ces prérogatives de parler au nom du peuple, qu'ils ne représentent pas, mais qu'ils pensent pouvoir quelque part représenter. Ils ne sont pas des élus du peuple, mais ils travaillent pour le peuple. Et quand vous prenez toutes ces associations... elle représente les obédiences islamiques au Niger. Il y a les sunnistes, il y a les chiites, il y a un peu partout comme on le voit dans le monde. Mais pour revenir à ce que ce monsieur a dit, je sens qu'il y a de la politique dedans. Je sens qu'il y a de l'attaque aussi quand vous l'écoutez bien. Puisque si lui est d'accord, si les autres ne sont pas d'accord, c'est leur point de vue aussi. Qu'ils disent que oui, ils ont été consultés et que les gens qui s'agitent, ils s'agitent pour rien. Le problème qui se pose ici, c'est qu'en tout, au Niger, il y a de la politique. Quoi que vous fassiez aujourd'hui, on politise les choses et ça devient un problème dans ce pays. Mais moi, je pense que quelque part, les associations islamiques, petites ou grandes soient-elles, doivent être consultées. Et si elles sont consultées et qu'elles ont apporté leur point de vue, je pense que c'est la meilleure solution, puisque ce genre de choses dans un pays qui se dit musulman à 99% ne doit pas être fait sans qu'au préalable il n'ait eu des rencontres avec les gens. Il a dit pendant un an, je pense qu'un an c'est largement suffisant, si tant est que cela a été fait avec toutes les associations et toutes les structures religieuses au Niger, je pense que c'est bon. Mais quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens qui diront qu'ils ne sont pas d'accord. Et si c'est venu de Maradi, ça aurait pu venir peut-être aussi de Zendera, parce que ce sont les deux régions qui, irreligieusement parlant ou islamiquement parlant, pense qu'ils sont qu'on ne doit pas toucher à la chose religieuse. Bien. Nous, depuis tout le temps, on a vu quand on s'élève, on construit les mosquées. C'est la maison d'Allah. Il faut qu'on construise partout pour qu'on rentre prier. Je pense que c'est normal. Mais regarder ça dans un contexte aussi d'islamisation à outrance de la religion, je pense que quelque part c'est le rôle de l'État aussi.
Bien. Hassan Bouka, vous voulez ajouter quelque chose?
Je comprends bien ce que dit Roufaye. Moi, je distingue un ulema d'une association religieuse. Un ulema est là pour éclairer sur la religion. On peut consulter des ulémas. Pourquoi? Du temps des prophètes, c'est une tradition. Eux, ils sont là parce qu'ils ont une connaissance du sujet. Et donc, en tant que personnes qui ont la connaissance, ces personnes peuvent éclairer et créer les conditions d'un débat éclairé sur le sujet. Les associations, ce n'est pas la même chose. Donc, pour moi, oui, en fait, je n'ai rien contre les associations. Mais ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, c'est la démarche du gouvernement. Dans un pays, je crois que le gouvernement parle aujourd'hui d'une centaine d'associations religieuses. Alors, vous avez comme les partis politiques.
Tous les syndicats.
Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas des syndicats, les associations. Ni les gens de la société civile, je peux convenir sur ça. Alors, lorsque vous prenez 4-5 associations, vous avez du mal à dire quelle est leur représentation. Elles représentent un courant. Et les gens pensent qu'aucun courant n'est supérieur. Alors, chacun croit à son courant. Et donc, dans ce cas, vous êtes condamné à ne discuter qu'avec une partie. Et il y a toujours une autre partie qui n'est pas d'accord. Parce qu'il y a des oppositions très fortes entre les courants islamiques dans ce pays. Parfois, sur des enjeux financiers, il faut le dire, l'enjeu n'est pas toujours la religion. Et donc, si aujourd'hui on dit les ulémas, parce que ces personnes ont une connaissance, il y a des gens qui sont respectés, non pas parce qu'ils appartiennent à une association, mais parce qu'ils ont la connaissance. Donc, les ulémas, pour ne pas commettre des erreurs et être conforme à la religion, puisque le gouvernement dit « je ne ferai rien qui soit contraire à l'islam », c'est ça qu'ils disent. En ce moment, on a besoin des ulémas pour éclairer et être sûr que le sujet est bon. Mais le gouvernement parle déjà vaincu sur ces questions-là. Pourquoi? C'est que pendant des années, et les associations ont réussi à mettre le gouvernement sur la défensive. Il lui dit « tu les fais pour de l'argent et pour l'extérieur, pas pour des questions internes ». Et donc, ils disent « tu les fais pour des partenaires ».
Ce qu'Aba a évoqué, c'est très important. Il ne faut pas qu'on nous exporte, parce que ça se fait en France. Le culte musulman, on le régule chaque fois. Eux, là-bas, il y a trop de fondamentalisme, c'est différent. Il y a trop de courants, par exemple, qui sont financés par le Maroc, par l'Arabie Saoudite, par le Qatar. Donc, c'est différent de ce qui se passe ici. Je pense qu'il faut qu'on adapte aussi les lois qui sont adoptées par l'Assemblée aux réalités locales.
Issa Madougou.
Moi, je pense que la polémique est partie du fait que l'État n'a pas pris le temps de bien communiquer sur ce projet de loi. Quand on voit comment le débat se déroule, c'est comme si c'est un projet uniquement destiné pour l'islam. Alors, écoutez le ministre, non, c'est l'encadrement du culte en général.
Pas seulement
effectivement, non. En fait, ils auraient dû communiquer. 21 articles, la communication sur 21 articles, moi, je ne vois pas, c'est pas un problème.
Non, pas sur la communication, mais on pense que c'est fait presque exclusivement pour l'islam. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays musulman.
Tout à fait. Mais c'est ça, c'est le débat là que le gouvernement devrait développer davantage pour comprendre aux gens que, voilà,
certes,
c'est une loi, ça ne regarde pas uniquement les musulmans. Mais la laïcité oblige. Mais il y a aussi cette séparation. C'est ça, le débat aujourd'hui, c'est très erroné et chacun part de son point de vue.
On a vu justement, en tout cas mercredi, un communiqué d'un regroupement de 8 associations islamiques, justement, qui rejettent cette loi votée lundi.
Vous savez, la liberté d'association, la liberté d'expression et d'opinion au Niger permet à chacun.
Oui, mais est-ce que cette voix discordante peut-elle amener des difficultés dans l'application de la loi qui vient d'être votée lundi?
C'est ça toute la difficulté, la problématique aujourd'hui au Niger quand on vote une loi. Le week-end passé, 4 ans après le vote de la loi portant l'interdiction, l'exploitation, l'exportation de ces plastiques, et avec le décret d'application, rien ne se passe concrètement sur le terrain. Alors, on comprend que cette façon de voir l'Assemblée nationale comme une caisse de résonance est en train de devenir une réalité, puisqu'il n'y a aucun mécanisme de contrôle pour voir si cette loi qu'on a votée, est-ce que c'est une nécessité, une exigence, ou bien c'est juste du conformisme pour plaire à quelqu'un d'autre.
Et les questions de faisabilité.
Et voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le débat, à mon humble avis, pourquoi, bon sang, ça dérange les gens quand on veut encadrer? Même au temps du prophète, on a pu encadrer. Il faut encadrer la pratique religieuse. Pourquoi ces mêmes ulémas qui ont participé en 2000,
17. Ici même à Niamey, à un forum sur la prévention de la radicalisation et l'extrémisme à travers la définition des normes d'encadrement de la pratique de la religion islam, ils ont participé. Parce qu'il y a des perdièmes là-bas ou bien quoi. Maintenant, ils viennent divertir. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est créer même une certaine confusion chez une catégorie de Nigériens qui ne sont pas des ulémas, qui n'ont pas la chance chaque jour ou bien qui ne s'intéressent pas profondément à ces questions pour aller chercher le savoir. Aujourd'hui, c'est eux. Quand vous entendez le développement de certains, moi, j'ai eu à faire ce débat sur le réseau de sociaux. Quelqu'un qui me dit que la loi, là, c'est une loi qui donne l'occasion à l'homosexualité au Niger.
Laquelle loi?
Cette loi sur le... Je l'ai dit, mais non, les 21 articles, moi, je pense que le seul problème, quand j'ai parcouru le document, peut-être c'est l'article 10, la dernière phrase où l'État se réserve le droit de contrôler le financement. Peut-être c'est ça que moi, à mon avis, qui constitue le problème pour certaines associations qui pensent que non, l'État ne devrait pas contrôler. Mais l'État devrait contrôler parce que la séparation de l'État et de la religion ne suppose pas la démission de l'État dans le contrôle et l'harmonisation. Contrôle. Pourquoi n'est pas harmonisé? Aujourd'hui, la construction de mosquées, on le prend dans nos quartiers. Il y a une mosquée qui est là. Quelqu'un vient, mais ça ne respecte pas. La religion musulmane n'impose rien. Il n'y a pas d'obligation, mais il y a des normes qu'il faut respecter. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Il y a des gens qui, certaines aberrations qu'ils font, et du commerce de la foi, vraiment, c'est même ça parfois qui constitue le malheur qui émaille notre quotidien. Mais il faut être réaliste. Pourquoi, bon sang, quand on dit qu'il faut aller sur le droit chemin, les gens refusent?
En fait, Alassane, c'est là où... d'après ce qu'Issa a dit, c'est là où vous comprenez que c'est du conformisme qu'on fait. Et le financement, l'État se réserve le droit de
réguler le
financement. C'est parce qu'en France, ça se fait, les Marocains financent et les mosquées. Toutes les grandes puissances islamiques financent les mosquées. Ça ne se fait pas ici. Ici, aujourd'hui, au Niger, comment se construisent les mosquées? Je me lève, j'ai de l'argent devant ma maison, je construis une mosquée. La plupart des temps, nous, quand tu parles dans
les... Il faut reconnaître aussi qu'il y a certaines mosquées qui sont construites, par exemple, par le Qatar, justement.
Oui, ça c'est des mosquées très rares.
Ça pullule dans les campagnes. Là où on a besoin de l'eau, les gens viennent construire une mosquée.
Il y a des milliers de mosquées.
Est-ce qu'on est en guerre contre le Qatar?
Oui,
on n'est pas en guerre.
C'est pour cela que les gens estiment que le contrôle... Moi, je comprends Rufa, où il dit le contrôle se réserve de contrôler le feu. Parce que ce gouvernement n'est pas sérieux. Si c'était un gouvernement sérieux. Même s'ils insèrent cela, on va comprendre que ce n'est pas ça. Mais la volonté d'aller vers le droit chemin, c'est ce que ce gouvernement ne démontre pas.
Regardons le fond de ce débat. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte sahélien où il y a une sorte de terrorisme sur fond de religion. Je ne dis pas que les terroristes sont des musulmans, mais les gens instrumentalisent la religion, le font. Il y a donc un souci citoyen de la part de la plupart des citoyens pour que ce climat ambiant ne puisse pas se transformer en insécurité pour les citoyens. Donc, toute mesure de la part des pouvoirs publics qui vise à sécuriser les citoyens, normalement, chacun doit l'applaudir. Et c'est pour notre propre sécurité. Mais comme Issa l'a dit, c'est la démarche le problème. Lorsqu'on peut communiquer, on peut dire aux gens, écoutez, voilà les enjeux réels, discutons. Et le fait que le gouvernement fasse ça et puis en urgence, il l'amène à l'Assemblée parce qu'il a une majorité qui va le voter, les gens disent, mais alors tu le fais pour l'extérieur. Tu fais quelque chose pour nous, sans nous.
Même les propos du ministre, pour finir, par exemple, ce n'est pas convaincant. Quand un ministre chargé du culte vient devant les parlementaires pour dire, on va faire comme les autres. Non. Comme les autres, non. C'est ça, Rufa a raison. Donc, il faut faire des
prendre
choses.
En compte le contexte,
c'est les réalités nigériennes. Il faut encadrer. L'encadrement, vraiment, on est dans un pays. Il faut encadrer les choses.
Deuxième partie de cette émission relative à des questions sécuritaires. Depuis 2018, la commune de Chetty-Mari connaît des affrontements sporadiques entre diverses communautés. Il y a moins de 2 semaines, 2 morts et plusieurs blessés ont été enregistrés. Pour prévenir d'éventuels dérapages, le responsable de l'AREN, Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, section de Diffa, Hassan Ardo, estime que les différents chefs coutumiers et administratifs doivent s'impliquer davantage. Hassan Boukar, quels sont, à votre avis, les facteurs qui ravivent ces conflits intercommunautaires et quelles solutions possibles à envisager?
Alors, quels sont les facteurs? Je pense que depuis un peu plus d'un an dans cette zone. Il y a quand même des alertes sur des frictions entre communautés. C'est parfois dans l'accès aux ressources. Hein. Par exemple, une communauté d'éleveurs qui vient, qui veut forer un puits sur un terrain que l'on considère réservé à un village ou à d'autres communautés. Il y a donc souvent des mésententes. Mais c'est aussi lié, à mon avis, en partie au conflit de Boko Haram auquel la région fait face. Il y a des communautés qui habitaient dans les lieux de la Tchad, aux abords de la Komadougou, qui ont été contraintes de se déplacer et qui reviennent sur des zones et où finalement on se retrouve un peu plus nombreux pour accéder à des ressources qui sont limitées dans un espace où, de par le passé déjà, il y a eu quand même quelques conflits dans cette zone. Donc je me dis, c'est lié à ça. Je pense qu'il y a à peu près un an ou un peu moins, le ministre de l'Intérieur lui-même s'est rendu dans la zone. Il a parlé avec des responsables coutumiers parce que c'est quand même des gens qui sont écoutés dans la communauté pour qu'ils puissent s'investir à ramener la paix. Mais à mon avis, c'est un conflit pour l'accès aux ressources naturelles. C'est-à-dire qu'en tant que tel, cette zone n'a peut-être pas une tradition d'animosité entre les communautés et tout ça. Je pense que les marchés, les puits sont des espaces d'intégration entre ces communautés.
Est-ce qu'on peut prévenir ? Est-ce qu'il y a des mesures préventives ?
Oui, à mon avis, c'est possible de le faire. C'est d'abord de parler avec les communautés. C'est-à-dire que je pense que dans la zone de Chetmari, à un moment, ce qui avait failli causer problème, c'était forer un puits. Alors, vous voyez, c'est une zone un peu désertique, en particulier dans la partie nord. Pour forer les puits, on cherche les zones où la nappe phréatique est un peu plus acceptable, plus proche. On va dans les cuvettes, en fait. Et souvent, les cuvettes, c'est aussi des champs. Et donc, du coup, ou parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont un droit historique coutumier sur cet espace-là, ou c'est parce que des zones de culture, lorsque des éleveurs arrivent, souvent ça crée un conflit. De par le passé, ce sont les autorités coutumières qui les règlent. Alors, ma crainte, c'est des immixtions politiques. Dès que les politiques mettent leurs pieds là-dedans, quelquefois, on pense qu'ils prennent parti pour une communauté au détriment d'autres. Et donc, c'est de là qu'il vient le problème. Mais normalement, c'est des choses que les autorités coutumières sont à même de régler.
Roufa, un mot sur ce sujet.
Voilà des choses qui ont besoin de l'attention des autorités, pas histoire de régler la construction des mosquées. Pour des futilités, excusez-moi des termes, pour une histoire de puits, on tue des gens. Vous voyez, non ? La terre appartient à l'État. Donc, si l'État s'investit pleinement dans la résolution de ce genre de conflit, il n'y aura pas encore de conflit de plus en plus de ce qu'on a l'habitude de voir, les Boko Haram qui interviennent, les djihadistes vers le Mali qui rentrent pour tuer des gens. Ça, c'est quelque chose encore qui s'ajoute, même si les conflits entre des fois éleveurs et agriculteurs est un peu vieux comme le Niger, mais je pense qu'on doit investir aussi dans la communication pour résoudre ce problème. Si, par exemple, les autorités coutumières avant résolvaient ou avaient les capacités de résoudre ce problème, pourquoi les autorités au plus haut sommet ne peuvent pas s'investir pleinement parce qu'il n'y a pas qu'à Chetmari ce genre de problème. Récemment, je crois, dans la région de Dosso, il y avait eu beaucoup de morts. Un peu partout, ça, on le voit, tant qu'il y a agriculteurs et éleveurs, tant qu'il y a, par exemple, les nomades, et les... il y a toujours ce genre de problème. Donc, il faut qu'on s'investisse pleinement dans la résolution de ce problème. Avec quoi ? Avec le dialogue. Il faut dialoguer avec tout le monde. Il faut montrer que pour vraiment une portion de terre, vous n'avez pas besoin de vous entretuer. C'est important, la vie.
Et c'est Amadougou, le dialogue, mesure phare pour prévenir, gérer ce genre de situation.
Non, vous savez, c'est vrai, comme l'a dit mes deux prédécesseurs, ce genre de problèmes ont existé depuis la nuit des temps. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, qu'au Niger, comme l'a dit Abba, il y a des mécanismes qui ont été vraiment développés au niveau local, où les chefs coutumiers sont là pour prendre des décisions et trouver le consensus autour du problème. Mais en fait, quand on prend le cas du Difa, c'est ce genre de situation où c'est vraiment l'exploitation des ressources naturelles qui est à la base le plus souvent de problèmes. C'est que depuis qu'il y a ce problème sécuritaire, l'État n'a pas analysé la situation d'intégralité. L'État s'est contenté seulement à faire la guerre, à faire partir les gens d'une zone. Il y a des déplacements qui vont s'opérer. Il y a une population qui vient. Il y a les déplacés qui arrivent. Donc, vous voyez que les ressources qui sont exploitées...
Il y a une certaine pression
sur l'exploitation des ressources naturelles. Donc, il faudrait que l'État prenne des dispositions. C'est ça aujourd'hui. La problématique de DIFA, c'est que, au-delà de l'aspect de guerre, c'est que on n'a pas pensé, l'État n'a pas pensé. L'État a failli sur ce plan pour le domaine humanitaire et autres. Parce que normalement, parce que c'est l'État qui a fait déplacer les gens du lit. Ils ont interdit à ce que là où les gens partent, par exemple, les éleveurs pour faire du pâturage, c'est des zones qui sont interdites. Donc, pourquoi ne pas en amont prendre des décisions pour informer? C'est-à-dire que tout passe par là. Déjà, il y a des mécanismes de résolution de coexistence pacifique qui existent, qui ont été adoptés. Des pays sont venus s'inspirer, du modèle nigérien. Quand vous prenez le code, ici le code rural, quand vous partez là-bas, il y a vraiment des mécanismes très vraiment révélateurs qui montrent le degré de maturité des Nigériens.
En parlant des chefs, dans la région de Tillabéri, toujours, le chef de village de Takorozat, département de Bankilare, a levé la semaine passée par des inconnus, a été retrouvé mort 2 jours après à la frontière du Mali et inhumé en territoire malien. Comment expliquer cette nouvelle trouvaille de terroristes consistant à tuer des chefs traditionnels? On se rappelle, il y a un mois, c'était le chef de groupement d'Inates, toujours dans la région de Tillabéri.
Mais ça, ce n'est pas une première. Vous vous rappelez même ici dans le département de d'Ayoru, combien sont-ils ces chefs? Il y a des chefs qui sont obligés aujourd'hui de vivre dans Tillabéri ville.
C'est ce que j'ai dit.
Oui, ce n'est pas une première. Ce qui veut dire que il y a ce problème.
Comment expliquer cela?
Mais c'est-à-dire les terroristes, pourquoi on dit des terroristes? C'est des gens qui sont sans foi, c'est-à-dire il ne faut même pas penser à un degré d'immunité sur ces gens. Le plus souvent, quand tu vois cela, c'est que c'est des gens qui refusent de coopérer, qui refusent de faciliter et qui donnent des informations vraiment sur ces gens. Et eux, ils ne sont pas d'accord. Et c'est ça qui démontre que parfois, ce sont même des locaux que ces groupes terroristes et recrute, parce que pour pouvoir pénétrer parfois dans une concession, on connaît la réalité de nos villages et surtout dans les palais des chefs, c'est pas permis à n'importe qui. Si vous n'êtes pas un autochtone vraiment qui connaît très bien les rouages du palais, vous ne pouvez pas venir pénétrer comme ça et partir avec quelqu'un. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui il faudrait que l'État donne des garanties à ceux qui leur donnent des informations. C'est ça le problème dans cette zone aujourd'hui. C'est parce que les gens ont peur qu'il n'y a aucune protection qui soit vraiment une garantie quand eux, ils vont aider l'État à travers des informations.
Oui. Rufai, donc il y a cette peur de pouvoir collaborer avec les autorités, notamment de peur de représailles. Est-ce l'une des raisons?
Aujourd'hui, les gens pensent que bon, si je collabore, par exemple, avec les autorités, même les simples citoyens, on ne sait pas qui est qui. Vous voyez, non? Même au sein d'une communauté, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple Boko Haram, Verdifa, ils ont les mêmes modes de vie. Ils ont le même mode de vie, et l'habillement, la façon de parler, la façon de manger. Mais on ne sait pas qui est qui. Donc, tu te dis que lorsque, par exemple, je collabore avec les autorités en place, je ne sais pas, peut-être que Issa va aller me dénoncer. Parce qu'on vit tout le temps ensemble. Lui, il collabore avec les terroristes. Moi, je collabore avec les autorités. Il va aller me dénoncer et on va venir chez moi me gorger. Ces gens-là, c'est des gens sans foi, ni loi, comme l'a dit Issa. Personne ne peut rentrer dans leur tête pour expliquer ce pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont dire que non, c'est pour propager l'islam dans le monde. Mais non, l'islam n'est pas méchant. L'islam est paix. L'islam est tolérant aussi. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu penses que... Tu lis le Coran chaque fois que tu vas forcer obligatoirement l'autre à lire le
Hassan
Coran.
Boukar,
non, ce n'est pas la religion, en fait. Quoi.
Bien. Hassan Boukar, comment est-ce qu'aujourd'hui l'État nigérien peut procéder pour empêcher que ces actions des terroristes puissent bloquer cette collaboration tant souhaitée entre population et forces de l'ordre?
Alors, à propos des chefs de village, il faut quand même se rendre compte que c'est le premier symbole de pouvoir, hein, le chef de village. C'est le premier symbole du village, comme Rafaël, voilà, comme Rafaël l'a rappelé. Dans la région de Diffa, c'est la même chose. Je constate que les chefs sont pris entre deux feux. Hein. Le gouvernement qui les accuse régulièrement de ne pas suffisamment collaborer avec les FDS, les terroristes qui considèrent qu'ils sont là pour les dénoncer auprès de l'État. Dans la région de Diffa, je crois que beaucoup de chefs ont été victimes de ça. Je ne sais plus, finalement, il y en a qui ont été blanchis par la justice, alors qu'ils sont venus ici.
Séjourner
en détention. Alors, dans la zone de Tel Abyei, là, ce sont les terroristes qui prennent des chefs pour les tuer. Mais avant, à la suite des attaques de Tongo Tongo, j'ai entendu beaucoup de voix pour dire que les chefs ils sont complices, les chefs, il faut les interpeller. Ça aussi, je l'ai entendu. Donc, les chefs sont pris entre les accusations de collaboration avec les terroristes et les insuffisances de collaboration avec les FDS. Ils sont donc alors que peut faire l'État? Je pense que ce que l'État peut faire, c'est d'abord de sécuriser tous les citoyens. Les chefs sont vraiment exposés. À mon avis. Il faut peut-être trouver les moyens aussi de mieux les sécuriser, puisqu'ils deviennent finalement des cibles.
Dernier point de ce chapitre sécurité, vous vous souviendrez, c'est l'attaque mardi soir du poste de police à la sortie de Niamey, route Oualam, située à 10 km. Deux policiers nigériens sont morts et deux blessés, selon un communiqué du ministère de la Défense. Une autre source ajoute à ces bilans un civil blessé. Quelles leçons tirées de cette attaque, on va dire, pratiquement à la porte de Niamey, à quelques semaines du sommet de l'Union africaine?
D'abord, condoléances pour les familles des victimes. Mais il faut se rendre compte que Niamey est une cible, finalement. Là, c'était à Koutkale, de l'autre côté. Là, elle contourne sur la route de Oualam. Je pense que c'est peut-être lié au fait que Niamey se prépare à accueillir la rencontre de l'Union africaine. Puisque ces groupes, on l'a vu avec l'État islamique, ils utilisent beaucoup la communication, notamment à travers les réseaux sociaux. C'est devenu un peu une façon pour eux d'exister et c'est un terrain sur lequel ils attaquent les États. Peut-être qu'à l'approche de ces événements, ils savent qu'il y a une attention des médias sur le Niger. Et donc, ils sont peut-être tentés de poser ce genre d'attaque. Peut-être que ça va continuer jusqu'à ce que cet événement ait lieu. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils ont l'occasion, même s'ils ne font pas des attaques d'envergure, des coups de feu tirés à la périphérie de Niamey, quand même, ça alerte les gens. Et là, ça montre que ce n'est plus sur la frontière malienne, mais ça s'est fait là sur le territoire de la ville de Niamey. C'est quelque chose d'inquiétant. Comme on le dit, ironie, quoi. C'est-à-dire que le jour où les FDS font une simulation dans la ville, c'est ce jour-là qu'il y a l'attaque au réel. Donc ça montre quelque part que ces gens peuvent attaquer n'importe où, n'importe quand. Et quelquefois, tu te demandes, mais d'où ils sortent? Est-ce qu'ils sortent de la ville de Niamey, par exemple? Moi, j'ai entendu ce type d'interrogation.
Il y en a qui disent qu'ils viennent de la ville de Niamey. Il y a plein de commentaires
en cas de sujet. Ça montre, franchement, j'ai l'impression que jusqu'à ce que cette rencontre, que tout le monde dit, le gouvernement nigérien est le premier à dire, c'est une rencontre exceptionnelle que jamais le Niger a organisée. Alors, jusqu'à ce que cette rencontre exceptionnelle est, peut-être qu'on sera sous pression parce qu'eux aussi vont vouloir exploiter autrement l'événement.
Rufai Dandoua.
Justement, là, ça prouve qu'on est en insécurité, même dans la ville de Niamey. Les gens qui pensent que l'insécurité, c'est ailleurs, pas à Niamey, il faut qu'on se mette au carreau, qu'on se dise qu'on est en sécurité jusque dans nos foyers. Cela prouve aussi, Abadi, le jour où il y avait eu les simulations à Niamey, cela prouve que ces gens ont derrière eux des têtes pensantes qui leur disent, écoutez, il faut leur montrer que malgré leur
stratégie,
leur simulation qu'ils ont faite, il faut leur montrer qu'on peut les frapper quand, comme et où on veut. Et c'est ça qui est dangereux. Et j'ai vu qu'il y a maintenant, à partir de, je crois, minuit ou 23 heures dans la ville de Niamey, des policiers, je crois qu'il y a même des militaires, je ne sais pas, puisque avant-hier, j'ai cru voir comprendre que c'était des militaires. Ouais, non, on est en insécurité. Et c'est l'occasion où tous les Nigériens doivent s'unir. Ce n'est pas une question à banaliser aujourd'hui.
Que faire alors?
Oui,
quelles mesures prendre?
La collaboration, la coopération de tous. Il n'y a plus de politique dans ce genre d'affaires. Sinon, demain, ça va venir sur toi. C'est quand ça ne vient pas sur un de tes parents ou sur toi que tu vas dire que non, non, ça ne se fait pas. Mmh. Il faut que les gens arrêtent leur le mativisme sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on a attaqué le régime. Non, non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on arrête
c'est
ça.
Tout le monde qui est
il faut
concerné.
Qu'on coopère, il faut qu'on se dise que c'est un problème réel qui est là, qui peut arriver à tout le monde.
Issa Madougou, c'est le problème de sécurité, un problème... En tout cas,
mais Niamey n'a jamais été à l'abri. Il faut que les gens vivent avec cette réalité.
Mais aujourd'hui, que faire? Aujourd'hui, que faire? Que faire?
Non, mais c'est Rufa, il a dit, il faut coopérer. Il faut aussi que nous inculquions dans notre comportement au quotidien ce réflexe que nous sommes également en insécurité. Personne n'est à l'abri. Dieu faisant les choses, c'est bien. Toutes les capitales du à part presque de la sous-région Bamako, Ouagadougou, N'Djamena également, ont été la cible des attaques. Niamey, Dieu merci. Mais il faut que les Nigériens voient quelque chose. Et l'État aussi a sa part de responsabilité. Parce que je reviens là-dessus. L'État communique d'une manière vraiment où on ne sait pas. C'est l'État qui crée la psychose ou bien qui crée la confusion. Regarde, l'État vient, on fait une simulation. On est là et la nuit, on fait une attaque. Et maintenant... On est là en période de deuil. L'État nous sort un communiqué pour dire qu'à 200 km de là où il y a eu l'attaque, ils sont partis attaquer. Mais attendez, laissez ça après, on va essayer de réfléchir parce qu'il ne faut pas qu'on crée la psychose.
Bien.
Oui, si vous êtes capable d'aller à 200 km, mener une opération, tuer des terroristes, pourquoi vous n'êtes pas? Et d'ailleurs, pour finir, c'est-à-dire sur l'axe Wallam, on l'a dit, on l'a répété, depuis qu'on a supprimé ces postes de défense de la gendarmerie, on est en train d'ouvrir. Il n'y a que deux postes, l'entrée de Wallam et l'entrée de Niamey. Il faudrait aussi renforcer les patrouilles.
Nous allons clôturer par un sujet sport. C'est aujourd'hui le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 en Égypte. Le match d'ouverture se jouera entre le pays hôte, l'Égypte, qui sera face au Zimbabwe. Qui peut apporter l'augmentation du nombre des équipes dans l'organisation de la CAN, notamment sur la qualité des matchs ou le niveau technique? Nous allons commencer par vous, Rufai Dandoua.
C'est la première CAN qui va se jouer sans Issa Hayatou. Et avec, depuis 30 ans, et avec un président de la CAF qui est empêtré dans des problèmes, il a été interpellé, vous rappelez, la semaine passée à Paris. C'est la première CAN qui va se jouer en juin. On a l'habitude de jouer la CAN en janvier. Et avec la chaleur en Égypte, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est la première CAN qui va se jouer aussi avec la VAR. L'avoir qui pose justement un problème. Oui, même
c'est l'assistance vidéo.
Même en Europe, ça pose problème dans son application parce que les gens ne comprennent pas grand-chose à cela. Et c'est la première CAN qui va faire qualifier un troisième. Tu peux avoir trois points aujourd'hui, te qualifier. C'est qu'avant, on n'avait pas l'habitude de voir. On jouait la CAN à 16 équipes. Les deux premiers sont qualifiés. Les deux derniers rentrent à la maison. Aujourd'hui, tu peux te qualifier avec trois points ou deux points. Cela me ramène à démontrer aussi à l'Euro. La dernière fois, on a vu des équipes comme l'Islande qui était qualifiée. Vous voyez, il y a des petites équipes qui peuvent se qualifier, qui peuvent créer la surprise. Et je pense que... Moi, j'avais interpellé les gens quand le Cameroun a été sacré champion d'Afrique il y a 2 ans. Je me dis que oui, le niveau du football africain est en train de baisser drastiquement. Quand tu vois le Cameroun champion d'Afrique, c'est que quelque part, il y a un malaise dans le football africain. Heureusement qu'il y a aujourd'hui des grandes stars, genre Salah, genre Sadio Mané, qui font la fierté du football africain.
Rufa, tout à l'heure, vous évoquez la VAR, donc l'assistance vidéo. quel commentaire sur cette nouveauté qui divise, en tout cas, vous l'avez aussi évoqué, on l'a vu récemment lors de son application dans le mondial féminin.
Moi, je ne suis pas une voix qui compte dans le monde, mais j'ai toujours été contre la VAR. Déjà, dans son appellation, les gens disent la VAR, d'autres disent le VAR. On ne sait pas. Déjà, il y a polémique. Platini a toujours été contre l'assistance vidéo.
Et pourquoi en tout cas on s'opposerait à cette vidéo qui permettra d'être sûr qu'il y a eu telle ou telle action?
On déshumanise le football. Le football, c'est la sensation. Vous voyez, non? Il n'y a plus ce côté humain du football. Regardez, aujourd'hui, vous marquez un but. L'arbitre dit non, ce n'est pas un but, on arrête, il faut aller voir la vidéo. Il n'y a plus cette émotion-là quand tu marques. C'est truffé d'erreurs, le football. C'est humain. C'est comme un arbitre, il est humain. Aujourd'hui, on pétille. Si on dit ça, on pétille l'arbitre. On te montre que tu donnes une, tu accordes quelque chose, on te dit non, l'avoir t'appelle. Tu pars, tu regardes la vidéo. Ça veut dire qu'on te minimise aussi. Bien. Moi, je pense que la VAR, je serai toujours contre. Même si ma voix n'est pas
contre. Je considère par ça, c'est technologie. Parce que je vois qu'à mon âme, la vie, ça dénature vraiment la beauté du football. Regarde la Copa d'Amérique qui est en train de se dérouler. C'est vraiment 3 buts d'emblée pour une équipe. On annule pour le Brésil. Non, il faut qu'il y ait cette sensation dès que le but est marqué. Qu'il
quand
y ait
on
cette...
siffle que c'est un but, quel que soit.
Oui, quand on siffle, le stade s'enflamme. Il y a cette sensation.
Malgré
le
VAR, il y a toujours des erreurs.
Cette qualité, ça, cette beauté
du football. Mais alors, quels sont vos points de vue, en tout cas, notamment par rapport aux équipes favorites et celles qui peuvent créer la surprise?
Pour moi, cette année, quand j'ai parcouru un peu la composition des équipes, pour moi, c'est vraiment on aura la qualité du jeu qui sera au rendez-vous. Parce qu'il n'y a pas de petite équipe.
Si.
Non, oui, les qualifiés pour la première fois. Oui, ça, c'est
mais
c'est
vous avez quand même des favorites que vous avez dû
oui.
identifier.
Oui, moi, pour moi, le favori, l'équipe que je vais supporter, c'est évidemment le Sénégal.
Moi, je me Hassan dis, Boukar, je me dis, par rapport à cette. Il y a beaucoup d'habitués du rendez-vous. Maroc, Algérie, Tunisie, Côte d'Ivoire, Maroc qui vont se retrouver et tout ça. Alors, j'ai l'impression que. Là, tout le monde dit Salah, Mohamed Salah, tout le monde dit Sadio Mané et tout ça. Alors, je vous pose la question de comment quelqu'un, même de la trame de Sadio Mané ou de Mohamed Salah, peut conduire son équipe à une victoire si le reste de l'équipe n'a pas...
Ne suit pas.
Alors, je vous pose vraiment cette question-là.
Oui, rapidement.
Alors, je vous pose la question. On est habitué, par exemple, à parler du débat entre ceux qui jouent dans le championnat européen et ceux qui restent au pays, qui jouent. Alors, on a parfois 2 équipes sur le terrain, quoi. C'est-à-dire que ceux qui sont habitués à jouer dans les clubs, alors ceux qui sont d'un niveau... Alors, il y a tout ça...
Rapidement, Rufai, quand j'entends finit.
Parler. En fait, des joueurs, des stars planétaires comme Mohamed Salah, comme Sadio Mané, tirent l'équipe vers l'excellence. Déjà, il y a un collectif qui est là. À eux, c'est un plus. C'est comme... la sauce.
Il n'y aura pas, vous pensez que ces désaccords, en tout cas, on n'a pas raison d'avoir peur d'un petit désaccord entre ceux qui ont une expérience de lecture.
Déjà, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Eux, ils sont des superstars. Ils tirent et ils font peur à l'adversaire. Voilà. Donc, quand tu as un Salah, il est entouré par 3 défenseurs. Donc, ça crée des espaces aussi. Mais moi, je pense que les favoris, c'est bien sûr déjà l'Égypte. L'Égypte avec 6 titres et qui a gagné 3 titres à domicile. À chaque fois que l'Égypte organise et les presque à 80% sûr de gagner. Je pense que le super favori de cette compétition, c'est l'Égypte. Maintenant, il y a des pays comme le Nigeria, le Sénégal qui sont là, mais je pense que le favori, c'est l'Égypte.
Fin du forum de la presse d'aujourd'hui. Nous étions avec Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, Rufai Dandoua, chroniqueur sportif, et Issa Amor Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. N'oubliez pas le nouveau programme Jeunes, c'est samedi et dimanche, de 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi de Tous à la Fada. Et à partir de 18h15, samedi, vous suivrez le forum en Hausa et dimanche, c'est lui en Zarma, à la même heure sur la dentition chez les nourrissons.